pour commencer cette deuxième partie. Dans le livre du Sérasside, chapitre 45. Il éleva Aaron, donc Dieu éleva Aaron, un saint semblable à Moïse, son frère de la tribu de Lévi. Il l'établit par une règle perpétuelle, il lui donna le sacerdoce du peuple. Il le rendit heureux par de beaux ornements, il le ceignit d'une robe de gloire, il le revêtit de toute une superbe parure, il le couronna des insignes de sa puissance, caleçon, longue tunique et éphod. Il l'entoura de grenades, de clochettes d'or en grand nombre tout autour, qui retentissaient à chacun de ses pas, et faisaient entendre leur tintement dans le temple, en mémorial pour les fils de son peuple. Voilà, et je m'arrête en cours de route, mais il y a tout un texte qui parle d'Aaron, et je me suis émerveillé en le lisant il y a quelques jours, parce que c'était comme un encensement des prêtres, c'est le cas de le dire. C'est comme si le Seigneur disait, voilà, les prêtres, voilà ce que je leur donne, quoi. Je les recouvre de la robe, et le premier recouvrement qu'on a quand on est pardonné, comme le fils prodigue, c'est d'avoir cette robe et de redevenir prêtre. Donc dans la première partie, on évoquait le fait que toute personne a cette qualité de prêtre, c'est-à-dire de pouvoir être responsable de d'autres personnes et d'enfanter d'autres personnes. Et cette qualité a été abîmée par le péché, bien sûr, et a été restaurée par le baptême. Cette qualité est donnée en particulier aux enseignants, aux parents, à tous ceux qui ont charge d'âme, et de manière imminente aux prêtres, au sens où on l'entend aujourd'hui, qui ont le vêtement du sacerdoce, qui est un vêtement qui va accélérer la grâce, qui va la démultiplier pour le profit du peuple. Donc on a vu dans la première partie les différents rôles d'un prêtre, on les a évoqués un par un, pour voir un petit peu la manière dont l'Ancien Testament décrit ces rôles. On a vu dans une deuxième partie les angoisses que pouvait transmettre un prêtre lorsqu'il ne jouait pas suffisamment son rôle, puisque on a une angoisse en tant que prêtre par rapport à l'argent, par rapport au témoignage, par rapport à l'interprétation de la loi, etc. Et le contact avec quelqu'un qui va nous solliciter dans ce domaine, et notre refus, notre péché, va transmettre une angoisse. Moi, ça m'est arrivé, voilà, avec par exemple des prêtres dans l'Église catholique, ou avec de ressentir vraiment ces angoisses-là, et de me demander, mais d'où elles viennent? Et en lisant ces textes, avec Jésus qui parle de « méfiez-vous du levain des pharisiens », donc si on traduit, c'est « surveillez votre cœur, Dieu, moi Dieu, je vous préviens que votre cœur, dans votre cœur, il y a quelque chose d'insuffisamment ajusté à la paix requise, et donc veillez sur votre cœur, demandez-moi de vous arracher cette mauvaise plante pour ne garder que les bonnes choses transmises par mes prêtres, puisque mes prêtres enseignent dans la chair de Moïse ». Et on a vu donc ces angoisses, avec à chaque fois une angoisse liée à l'argent par exemple, et Jésus donnait un châtiment qui correspondait, et Jésus nous prévient. Alors, on va regarder maintenant dans tous ces textes qui parlent des pharisiens dans le Nouveau Testament, que j'avais répertorié selon un classement, parce que j'avais pas encore vraiment fait le topo au moment où j'ai fait ce classement-là. Et puis j'avais essayé de trier ces textes en disant les fois où Jésus se heurte aux pharisiens, les fois où ils sont immobiles, les fois... Voilà. Mais c'était un classement qui restait pour réussir à mieux les appréhender, pour s'en imprégner, pour les regrouper selon une certaine catégorie. Et à mon sens, un dénominateur commun dans ces textes, c'est de balayer les différents rôles des prêtres joués par les pharisiens. Donc les pharisiens que nous sommes tous, dans nos vocations respectives. Et quand Jésus pointe leurs défauts, donc c'est de manière négative que ça ressort, c'est par contraste avec la perfection requise. Et donc j'ai répertorié dans ce tableau les défauts que pointe Jésus, des exemples contemporains qui nous parlent peut-être plus. J'essaie de le traduire. Quelle est leur vocation en creux? Et des tuyaux que donne Jésus pour se garder de ses dérives. Voilà. Donc on va balayer ces différents points. Sachant que la base, c'est ce texte de Saint Matthieu, au chapitre 23, je crois. Voilà, ça commence dans le le répertoire de paroles que je vous ai donné, je ne sais pas comment l'appeler, la page 2 sur 14, en bas de la page 2, 11 reproches qu'il fait aux pharisiens liés à 11 missions de prêtres. Que fait un prêtre aujourd'hui? Il y a 11 items. Et j'étais relativement bluffé de voir que ces items, ça collait d'une manière remarquable avec les items que j'avais trouvés en cherchant dans l'Ancien Testament ce qui était dit sur les prêtres. Donc première chose, se croire l'unique garant de l'intégrité de la foi. C'est Jésus qui dit « ils disent mais ne font pas ». Voilà, c'est pas d'abord l'hypocrisie, c'est le fait de dire « la loi tient grâce à moi ». Les fondements de la loi tiennent grâce à moi. De fait, être immobile en disant « elle ne bouge pas », donc je suis immobile par rapport à cette loi, par rapport aux règles liées à ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et je ne me prononce pas. Et donc il y a un texte en 2C, alors le 2C il est à la page 4, c'est Luc 7, 29 à 35.
Le 2C, c'est ton plan,
le 2C. Le 2C, voilà, c'est, j'ai donné des... Ouais. Finalement, pour pouvoir retrouver les textes plus facilement ensemble. Hein. À qui vais-je donc comparer cette génération? À des gamins? Ils disent, mais ne font pas, etc. Voilà, c'est finalement mettre son énergie dans la critique et pas dans l'action. Voilà, et ceux qui se lèvent pour faire, on les critique. On est immobile, je suis détenteur de la loi, et je vais m'opposer à tout ce qui s'oppose à cette immobilité. Cet immobilisme. Et Jésus nous dit « Mais par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. » Donc, on peut dire « Être immobile, ça empêche d'appréhender la sagesse de Dieu. » Puisqu'on se croit seul dépositaire de la loi, je n'ai pas besoin d'évoluer et la sagesse de Dieu me passe sous le nez et je ne la reconnais pas quand elle passe. Quoi. Voilà, je ne suis pas capable de voir en quoi Dieu peut me parler à travers les événements, à travers les autres. Et puis l'immobilité sur la doctrine, on a aussi le 2 petit e, les soldats, vous savez, qui reviennent, ils devaient arrêter Jésus, et puis ils disent « mais jamais un homme n'a parlé de la sorte », et les pharisiens disent « alors toi aussi t'es son disciple », et il y a une forme de malveillance à l'égard de ces gens, et un peu caractérisée. En exemple, pour nous, ça va être critiquer quelqu'un. La critique souvent... c'est un manque d'humilité par rapport au fait que nous aussi, ça peut nous arriver de faire ce qu'on observe et qui est mauvais. Et souvent, on a à gagner à se dire, est-ce que je suis vraiment absolument sûr de n'avoir pas ce même péché dans ma collection de péchés, quoi. Donc, la vocation d'un prêtre, qu'est-ce que c'est? Par rapport à cet item-là, c'est être gardien de la loi, normalement. Le prêtre apprend au peuple à distinguer le sacré du profane. Donc forcément, c'est faire son possible pour rester pur, c'est-à-dire ne pas pécher, être intègre. Et puis, surtout, arriver à transcender la loi en faisant miséricorde. Là, je fais référence au texte 3e, page 8, dans Matthieu 12, versets 1 à 8, où les pharisiens tombent sur Jésus et ses disciples en disant « Tes disciples arrachent des épis et les mangent, alors que c'est marqué dans la loi, on n'a pas le droit de glaner des épis, etc. » Et Jésus fait une comparaison avec David quand il est dans la nécessité, c'est-à-dire quand il a faim. Il leur dit délicatement, mais mes disciples, ils ont faim là, ils le font parce qu'ils crèvent la dalle, quoi. Et les pharisiens ne voient pas ça. Ils se réfèrent à la loi, et il y a un aveuglement par rapport à la loi, parce qu'ils sont tellement à fond dans la comparaison entre les gens qui les entourent et la loi, et ils oublient un truc élémentaire, ben voilà, il y a des gens qui n'ont pas assez à manger. On a aussi le 5b, page 12. Le 5b, c'est Matthieu 12, versets 38 à 45, où des scribes et pharisiens adressent la parole. « Nous voulons voir un signe venant de toi. » Et Jésus dit, « Voilà, je vous donnais le signe du prophète Jonas, parce que lors du jugement, il donne deux références. Une référence aux habitants de Ninive, puisque Jonas a fait une proclamation. » Et une référence à la reine de Saba, parce que Salomon a délivré une sagesse. Donc, on peut dire que la personne qui est gardienne de la loi, elle a une responsabilité pour appréhender les élans prophétiques des personnes qui l'entourent. Donc, comme les Ninivites, ils vont comprendre que c'est une parole prophétique qui est donnée, et la sagesse des gens qui les entourent, puisque par rapport à la reine de Saba, elle s'est mise à l'écoute de Salomon avec « voilà mon vécu, voilà mon expérience, voilà ma sagesse », et elle a reconnu Dieu dans le prophétisme et dans la sagesse. Voilà. Ça, c'est l'apanage du prêtre gardien de la loi. Alors, comment se garder de ces dérives de s'arroger la loi? Réaliser que le maintien de la chair de Moïse tient plus à Dieu qu'à nous. Quand moi, aujourd'hui, je parle, j'espère que c'est d'abord grâce à Dieu, plus que grâce à mes mérites personnels. C'est je dirais, un acte d'humilité de se dire, c'est d'abord Dieu qui délivre à son peuple la nourriture dont il a besoin et qui prévient quand il y a besoin de mettre à jour la loi, d'ouvrir un concile, etc. Et puis d'oser se prononcer. On nous demande notre avis, sauf si on a des interlocuteurs, comme on le verra tout à l'heure, qui ont plus à gagner à ce qu'on ne donne pas notre avis de manière directe, on doit donner notre avis. On nous sollicite pour parler, pour « que penses-tu sur tel sujet ?» La dérive d'un enseignant, ça peut être quand il sent qu'il y a un risque de dire « je reste dans la barque, et puis j'attends », alors que la parole chrétienne est attendue, quoi. Donc ça, c'était le premier item. Alors, les textes auxquels je fais référence ici, il m'a semblé que l'élément dominant dans ce texte-là, la clé principale d'interprétation par rapport au rôle d'un prêtre, c'était ce rôle-là. Donc je parlais de Luc 7, de Matthieu 12, etc. J'en ai cité trois. Et ben, pour moi, ces trois textes-là font référence en premier lieu à cette capacité d'être gardien de la loi chez un prêtre.